l'invité de la rédaction. Pierre Ellenbach.
Une commémoration à la mémoire des 86 victimes juives des expérimentations sur l'homme faites par les nazis s'est tenue le jeudi 1er décembre 2022 à l'entrée de l'Institut d'anatomie normale à l'hôpital civil de Strasbourg, une commémoration organisée par le cercle Menahem Tafel. Pour commencer, écoutons Ambroise Perrin, membre du cercle Menahem Tafel, lors de son discours inaugural.
Au nom du cercle Menahem Tafel, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui participent à cette cérémonie d'hommage, comme nous le faisons chaque 1er décembre. Georges Federman, le président du cercle, vous prie de l'excuser. Il est retenu par des obligations familiales. Alors, mon nom, c'est Ambroise Perrin. Je suis membre du cercle, c'est pour justifier ma légitimité ici. Donc, je suis membre du cercle Menahem Tafel en tant que journaliste, en tant qu'Alsacien, soucieux du patrimoine et de la mémoire de notre région. Je suis également membre de la Fondation Auschwitz à Bruxelles. Alors, c'est ici, à l'Institut d'anatomie de l'hôpital civil, que le 1er décembre 1944, le commandant Raphaël, qui fait partie des forces alliées, il est membre du service cinématographique de l'armée et il pénètre dans la ville de Strasbourg et il découvre les restes des 86 victimes juives qui avaient été sélectionnées et assassinées pour des expérimentations médicales et pour constituer une collection de squelettes par les médecins qui œuvraient ici à l'hôpital de Strasbourg, dont le médecin nazi, le docteur Hirt. 115 personnes avaient été sélectionnées à Auschwitz pour être transférées ensuite au Struthof, où l'on faisait des expériences sur le typhus. Une partie d'entre elles décédèrent pendant le transport. Alors vous connaissez le déroulé de cette tragédie et les recherches de Raphaël Toledano pour reconstituer les noms des victimes. Et vous êtes au courant, bien sûr, de la constitution d'une commission d'enquête internationale et indépendante au sein même de l'université et qui a rendu ses travaux il y a quelques mois. On sait que c'est un employé laborantin français, Henri Pierre, hein, qui avait clandestinement relevé les 86 matricules sur l'avant-bras gauche des victimes. Ensuite, on a retrouvé la liste, mais toute cette histoire est très documentée. Je ne vais pas la répéter ici. On sait également qu'une rumeur circulait faisant état de l'utilisation de nos jours par des étudiants en médecine d'échantillons de plaquettes provenant des victimes. Alors, Menahem Tafel fut la première victime à être identifiée. On sait également que nombre d'entre elles venaient de Thessalonique, en Grèce. Alors, au sein du Parlement européen, j'ai pu réunir Georges Federman et le maire de Thessalonique, M. Koukiadis, Georgos Koukiadis, et pour mettre en place une cérémonie ou un travail de mémoire. Et les aléas politiques en Grèce ont fait que ça n'a jamais abouti. Alors, pourquoi sommes-nous ici ? Parce que la révélation des détails de cette tragédie fait partie intégrante de l'histoire de notre ville de Strasbourg. Ces lieux ont changé maintes fois de nationalité et dans ces lieux se sont déroulés le meilleur, c'est-à-dire rendre la vie humaine plus facile, soigner les malades, faire avancer la science et aussi le pire, comme par exemple ces médecins convaincus de l'idéologie nazie qui ont pratiqué leur science en bafouant toute éthique médicale. Nous sommes ici parce que nous sommes strasbourgeois et que ce sont des strasbourgeois parfois depuis peu de temps, hein, pendant la guerre, mais c'était des strasbourgeois qui ont perpétré ces horreurs. Et nous sommes ici parce que ces horreurs font partie de notre histoire. Et nous avons tous la conviction qu'il faut bien connaître notre histoire, tous, en tant que citoyens, citoyen lambda et simplement en tant que citoyen strasbourgeois.
Ambroise Perrin, vous êtes membre du cercle Menarem Tafel. Pouvez-vous nous parler de cette association et quelles actions menez-vous durant l'année ?
L'association a pour but de continuer les recherches, de rendre public le plus possible cette mémoire, comme par exemple d'avoir réussi à ce qu'une rue ou une avenue de Strasbourg porte le nom Menarem Tafel, qui borde le quai, qui borde l'hôpital, mais également de faire ces cérémonies et d'étendre un petit peu ce travail avec un objectif, c'est d'affirmer que la médecine doit également être quelque chose de très accessible pour les plus pauvres.
Richard Aboif, président de l'association Stolperstein 67, à propos du projet Stolperstein.
Vous savez que le projet Stolperstein, nous l'avons déployé à Strasbourg en 2019 et il prend une ampleur qui nous dépasse. On a 6 historiens qui travaillent avec nous et on a des contacts au quotidien. C'est un projet mémoriel qui vient de Berlin, comme vous le savez peut-être, initié par l'artiste Günther Demling. On arrive aujourd'hui à 100 000 Stolperstein posés dans 26 pays européens. C'est un projet européen aujourd'hui qui trouve un soutien extrêmement important auprès de nombreuses associations, auprès des municipalités, auprès des mémoriaux et des instituts de recherche pratiquement partout en Europe. Et ce projet, donc, nous l'avons déployé à Strasbourg précisément parce que les demandes ont été très importantes ces dernières années. Concernant ces victimes, elles n'auront pas de Stolperstein parce que les victimes pour lesquelles on pose des Stolperstein, c'est devant le dernier domicile connu. Or, c'est des victimes qui étaient à Salonique. Sur ces pavés sont indiqués le nom de la personne qui a été déportée. Alors évidemment, ça concerne pas seulement les Juifs, ça concerne également les opposants, les homosexuels, donc plusieurs catégories également de les Roms et les Sinti également. Le projet a commencé à Cologne avec les Roms et les Sinti. Günther Demling a travaillé là-dessus. Et pour la petite histoire, c'était une anecdote, puisqu'on on raconte des anecdotes aujourd'hui, Günther Demling a découvert, quand il avait 15 ou 16 ans, des documents de son père dans une armoire familiale. Il s'est aperçu que son père était pilote de la Légion Condor qui a bombardé Guernica. C'est comme ça que le projet Stolperstein a débuté. Il voulait véritablement réparer ce qui s'est passé dans sa famille. Et le projet Stolperstein a commencé donc avec cette découverte des documents du père de Günther Demling, pilote de la Légion Condor qui a bombardé Guernica en 1937.
Retrouvez le témoignage du docteur Raphaël Toledano, médecin qui est à l'origine de la découverte de restes de victimes juives gazées dans le camp alsacien.
Retrouvé le 1er décembre 1944 par le commandant Jean-Gabriel Raphaël, photographe militaire pour la section cinématographique des armées. Il est venu à l'hôpital pour chercher du matériel pour documenter les crimes nazis et il est tombé sur une montagne de cadavres dans les cuves, ce qui a déclenché une enquête des services secrets français. Et très vite, grâce au témoignage de Henri Pierre, qui avait gardé une copie des numéros matricules des 86 juifs, on a compris qu'il s'agissait d'un crime horrible qui s'était passé au Struthof. Et l'enquête a été confiée à la justice militaire française. On a cherché à capturer Hirt. On a même envoyé un agent secret français à ses trousses en Allemagne, qui est revenu bredouille. Et ce n'est que dans les années 60-70 qu'on a découvert qu'il s'était suicidé en juin 1945. Pendant quelques années, on a parlé de ce sujet ici à la faculté de médecine, jusque dans les années 52, jusqu'au procès de ces médecins nazis, puisque Hirt a été jugé par contumace et condamné à mort par le tribunal français en décembre 52. Et puis le sujet est tombé en désuétude, on l'a un peu oublié. Il est revenu sur le devant de la scène par un fait un peu paradoxal, par le biais des négationnistes qui, dans les années 70, ont commencé à dire qu'il n'y avait pas eu de chambre à gaz, qu'on n'avait pas gazé des gens, que c'était totalement impossible. Et ce qui a obligé les historiens, notamment Klarsfeld, à confier à d'autres historiens ou des comme le pharmacien Jean-Claude Pressac l'étude de ce sujet, ce qui l'a remis au devant de la scène. Moi qui ai fait mes études ici à la faculté de médecine à partir de 1997, on avait droit à une heure de cours sur ce sujet. par le professeur Errant, Jacques Errant, qui se faisait un point d'honneur d'en parler. Et ici, en anatomie, lorsqu'on posait des questions, on nous disait « les murs sont innocents, nous ne sommes pas coupables de ce que les murs ont vu, ça ne nous regarde pas, c'est les Allemands, c'est pas les Français. » Et il a fallu attendre 2015, la découverte de ces bocaux à l'Institut de médecine légale, non pas ici, mais dans un autre bâtiment, pour relancer les recherches sur ce sujet et permettre que aujourd'hui l'université fasse enfin sienne cette histoire et la prenne à bras le corps. On parle de lieux de mémoire, peut-être dans la cour intérieure de l'Institut d'anatomie. On avait également mis en place en 2014 un projet de renouvellement muséographique dans la chambre à gaz au Struthof avec Frédéric Naudufour, qui a abouti la semaine dernière.
C'était Ambroise Perrin, membre du cercle Menarem Tafel, Richard Aboif, président de l'association Stolperstein 67, et le docteur Raphaël Toledano, médecin qui est à l'origine de la découverte de restes de victimes juives gazées dans le camp alsacien.
L'invité de la rédaction. Pierre Ellenbach.